Les discussions au conclave de Deva vont se prolonger quelques heures encore. Les délégations politiques calédoniennes, le ministre des Outre-mer et le conseiller du Premier ministre sont toujours à Bouraille. L'ordre sera maintenu à tout prix, c'est ce que nous a dit le général Mathéos, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Il était ce matin notre invité à 7h30, extrait dans ce journal. Le début des commémorations marquant la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Des cérémonies étaient organisées ce matin à Païta et cet après-midi à Dimbéav. Opération de transfert embryonnaire et d'insémination artificielle ovine à la station zootechnique de Port-la-Guerre. Objectif, renouveler la génétique du cheptel calédonien. Et puis le sport et le tennis, Maxime Chajal enchaîne au tournoi Challenger de Prague. Le calédonien jouera ce soir le deuxième tour du tableau principal. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. On joue donc les prolongations à Bouraille. Les discussions sous forme de conclave qui devaient se terminer cet après-midi vont se poursuivre encore quelques temps. Les délégations calédoniennes, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et le conseiller du Premier ministre, Éric Thiers, vont encore passer la nuit au Sheraton à Deva. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le huis clos des discussions. Léana Colombo, vous avez passé la journée sur place. Qu'avez-vous à nous dire ?
Oui, effectivement, Lionel, je suis toujours juste devant le Sheraton à Deva. Les discussions ont repris ce matin à 9h dans ce lieu considéré comme un sanctuaire le temps du conclave. Le dispositif de sécurité devant l'hôtel y était d'ailleurs conséquent aujourd'hui. Impossible pour les journalistes de rentrer au sein de l'établissement. Seul le haut-commissaire Jacques Billon a quitté le Sheraton aujourd'hui par hélicoptère. C'était en début d'après-midi. Les échanges se sont ensuite arrêtés un peu plus d'une heure avant de reprendre aux alentours de 16h. Devant l'établissement, nous avons aperçu quelques délégations aller et venir à bord de voiturettes de golf pour se rendre dans leur chambre. Mais toutes avaient une consigne. Nous ne parlerons pas tant que les discussions ne seront pas terminées, ont-elles déclaré. Pour le moment, rien de concret ne semble ressortir. Toutefois, selon nos dernières informations, les discussions avancent, mais doucement. Les loyalistes auraient demandé à s'isoler quelque temps ce matin pour se concerter. Certains points restent encore source de tension. Et justement, on peut se demander combien de temps encore pour ces discussions importantes pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls a fixé sa date de départ du territoire à demain, mais il n'exclut pas de prolonger son séjour, selon les avancées. Les discussions se poursuivent encore à cette heure-ci. Jusqu'à quand ? C'est là toute la question. Devant le Sheraton Deva à Bouraille, Léana Colombo, RRB.
Merci Léana. Les discussions se poursuivent donc au Sheraton Deva. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce bon signe, Elisabeth Noir ?
Eh bien, Lionel, c'est difficile à dire parce que l'on en est réduit aux conjectures. Hier, d'après nos informations, le climat s'était tendu au deuxième jour de discussion et les échanges semblaient achoppés sur la question statutaire et le projet d'accord politique proposé par Manuel Valls. Un projet qui serait, rappelons-le, celui d'une forme de souveraineté en union avec la France, une sorte d'indépendance association. Les partisans de la France expriment depuis le début leur opposition à ce projet et les discussions se sont poursuivies tard dans la soirée d'hier avant de reprendre ce matin. Rien ne filtre de Deva, mais ces discussions se déroulent apparemment sous divers formats, en bilatéral et en plénière, entre partenaires calédoniens parfois et avec les représentants de l'État d'autres fois. Il y a aussi beaucoup de suspensions de séances. Ce matin, il semblait convenu que tout le monde rentre à Nouméa dans l'après-midi. On avait même envisagé des prises de parole des uns et des autres. Et c'est à la mi-journée que les choses se sont accélérées avec l'annonce d'une prolongation des discussions. Comme Léana le précisait il y a un instant, le haut-commissaire Jacques Billon a quitté Bouraille, mais tous les autres sont restés sur place et ils poursuivent les discussions à l'heure actuelle. Alors on ne sait pas bien sûr sur quoi portent ces échanges, mais a priori ils se consacrent autour de la question du corps électoral et des équilibres au Congrès. Difficile de savoir si les délégations quitteront Bouraille avec un compromis, un accord ou un petit accord sur la seule question du corps électoral qui permettrait de préparer les élections provinciales. Difficile même de savoir quand il sera mis fin à ce conclave et quand les uns et les autres regagneront Nouméa. A priori, le ministre des Outre-mer ne sera pas demain matin à la Croix de Lorraine pour le dépôt de gerbes du 8 mai à Nouméa. À l'heure actuelle, on ne sait pas non plus s'il quittera la Calédonie demain après-midi, comme cela était prévu à l'origine. Mais encore une fois, Manuel Valls avait déclaré qu'il resterait le temps nécessaire. On sait qu'il tient absolument à un accord, ou en tout cas à ne pas rentrer les mains vides à Paris. Cela reste toutefois un pari très difficile à relever, mais il y aura consacré du temps avec des discussions qui ont débuté, rappelons-le, mercredi dernier, même s'il y a eu plusieurs suspensions. On ne sait pas combien de temps cela va encore durer, et désolé, mais c'est tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle.
Un an après le déclenchement des violences insurrectionnelles, l'ordre public est rétabli partout sur le territoire, déclare le général Mateos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Et il affirme, Elisabeth, que dans les jours qui viennent, l'ordre sera maintenu.
L'ordre sera maintenu à tout prix, déclare le général Mateos, qui était notre invité du matin à quelques jours de ce premier anniversaire du déclenchement de l'insurrection, le 13 mai 2024. Il affirme que les forces de gendarmerie sont en nombre suffisant et qu'elles peuvent compter sur un parc blindé qui sera déployé dès cette semaine.
Aujourd'hui, nous sommes exactement 2100 gendarmes. Une partie des gendarmes mobiles est engagée en zone police et puis l'autre partie est engagée en zone gendarmerie. Nous n'avons pas baissé le format des gendarmes mobiles depuis le mois d'octobre. Effectivement, il y a eu un pic au plus fort de la crise et ça répondait à la nécessité d'être extrêmement nombreux pour rétablir l'ordre sur tout le territoire. Ensuite, ce volume considérable, hein, c'était 41 forces mobiles engagées, ne se justifiait plus. Donc, nous avons retrouvé un format à 20 escadrons qui sont restés et qui vont rester autant que nécessaire.
Et vous disposez également du matériel nécessaire. On sait que l'acheminement du matériel, ça demande du temps parfois. Les Centaures, par exemple, sont restés sur place.
Oui, bien sûr. Nous avons cette capacité blindée qui est importante, hein, qui a été déterminante dans le rétablissement de l'ordre. Cette capacité blindée, elle a été maintenue. Elle a même été enrichie par l'arrivée de nouveaux blindés. Et donc, nous pouvons monter sur un parc blindé aujourd'hui qui est complètement opérationnel et qui, d'ailleurs, sera massivement déployé dès cette semaine.
Pour prévenir toute réédition des événements du 13 mai et tout débordement dans les prochains jours, un déploiement massif de gendarmes mobiles a été mis en place, précise le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, et des consignes de plus grande fermeté ont été données.
J'ai reçu des directives très très claires de monsieur le commissaire de la République et du procureur de la République pour que l'ordre soit maintenu à tout prix. Et donc, j'ai fait valider mon dispositif par le commissaire de la République, qui consiste en un déploiement massif, là où l'année dernière, nous avons eu des difficultés. Déploiement massif de gendarmes mobiles qui sont présents le jour, qui sont présents la nuit, qui sont présents dans les quartiers difficiles, qui sont présents sur les axes les plus importants. Et puis, les consignes que j'ai reçues et que je vais appliquer sont vraiment la plus grande fermeté. La plus grande fermeté, c'est-à-dire que s'il y a des débuts d'émeutes ou des débuts d'exactions, nous interviendrons massivement pour interpeller, présenter ensuite les auteurs de ces exactions devant le procureur public. Donc nous sommes nombreux, nous sommes présents là où il faut, nous sommes présents le jour, la nuit, et nous serons extrêmement fermes dans le maintien de l'ordre public.
Interrogé sur le climat général à quelques jours de ce premier anniversaire, le général Mateos affirme qu'il n'y a pas de préparation de nouvelles émeutes, même s'il reconnaît une petite agitation, dit-il, avec des actes de délinquance. Mais il rappelle que la population calédonienne est épuisée et exaspérée et qu'elle n'acceptera pas d'être de nouveau bloquée ou privée. Le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, qui a aussi fait le point sur le volet judiciaire et la poursuite des commanditaires.
Ce qui est notable, c'est que nous avons pu identifier et présenter à la justice les donneurs d'ordre. Ça, c'est important. Certains sont prévenus, mais sont en détention parce qu'ils devront rendre des comptes à la justice. Et c'était pour nous important aussi de cibler nos efforts, pas seulement sur les pilleurs, les casseurs, mais sur ceux qui, à un moment, ont endossé les responsabilités de mettre des jeunes sur la route. Donc, nous avons une action judiciaire qui a été forte, qui se maintient. J'ai des renforts importants d'enquêteurs spécialisés et nous allons continuer cette action judiciaire qui est essentielle puisque ce sont les lois de la République. Nous devons, chacun doit être capable de rendre des comptes à la justice dans la mesure où les lois ont été enfreintes.
Il y a des commanditaires qui sont encore recherchés ou qui pourraient éventuellement encore être interpellés.
Oui, nous recherchons activement quelques personnes, alors c'est une poignée, hein, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont eu des responsabilités importantes dans l'organisation des désordres, des troubles, des actions contre les gendarmeries. Ces gens-là, nous les recherchons, nous avons mis les moyens, nous continuerons à mettre les moyens parce qu'ils seront interpellés. Voilà, et ils savent, il faut leur dire, ils seront interpellés, ils seront présentés à la justice, quoi qu'il en soit, et donc je les invite bien sûr à se rendre à la gendarmerie. Mais nous allons continuer.
Nous sommes prêts, déterminés, mais sereins et nous maintiendrons l'ordre partout sur le territoire, déclare encore le général Mateos, une interview disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Et dans la soirée, le haut-commissaire Jacques Billon et le procureur de la République feront le point avec la presse sur le dispositif de sécurité publique et de maintien de l'ordre à la veille du pont du 8 mai et près d'un an après le début des émeutes de 2024. Et puis notez que comme il y a une semaine pour le long week-end du 1er mai, le haut-commissaire Jacques Billon a pris un arrêté interdisant les rassemblements de personnes, les défilés, marches et cortèges sur la voie publique sur la commune de Nouméa du jeudi 8 mai au jeudi 15 mai inclus.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Le haut-commissaire a-t-il eu raison, selon vous, de saisir le procureur de la République, Yves Dupin, après les propos menaçants d'un élu sur Facebook? Si vous pensez qu'il a eu raison, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 68% des auditeurs d'Erreur B qui se sont exprimés par SMS pensent que lors du conclave qui va s'ouvrir d'ici quelques heures au Vatican, les cardinaux vont se mettre d'accord rapidement sur le nom du futur pape. Ils sont 32% à penser que ce ne sera pas le cas. La commune de Païta réunit aujourd'hui son CLSPD, son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La précédente réunion de ce type datait d'octobre 2023, Jean-François Bonin.
Pas de réunion en 2024, en effet, en raison des émeutes insurrectionnelles, et on sait que Païta a été particulièrement touchée. Le haut-commissaire sortant, Louis Lefranc, a demandé aux communes qui disposent d'un CLSPD de se réunir avant le 13 mai prochain. C'est ce qu'a donc fait la commune de Païta, ce qui a permis, nous a dit Antoine Romain, le directeur de cabinet du maire de Païta, de dresser un bilan en termes de sécurité de l'année 2024 et du début de l'année 2025.
Le constat, il est qu'évidemment, hors situation particulière et crise que nous avons connue l'année dernière, l'inquiétude se faisant jour vis-à-vis d'une petite délinquance, délinquance de proximité, délinquance d'appropriation, qui a légèrement redémarré avec une augmentation d'environ 10% là sur le début de l'année depuis la période de la rentrée scolaire. Et comment est-ce que nos différents services et directions pouvait travailler ensemble pour pouvoir limiter la casse, je dirais, et pouvoir entrevoir la période qui s'ouvre ce week-end de façon un peu plus claire.
Autre chiffre à retenir pour ce début d'année 2025 à Païta, une augmentation des violences intrafamiliales, mais aussi un léger recul de certains actes de délinquance, notamment les cambriolages ou encore les vols de voitures. Au-delà du bilan, il s'agissait aussi d'envisager la poursuite des actions de sécurité.
Les perspectives sont très très liées aux capacités des collectivités à pouvoir financer des politiques de prévention de la délinquance. Et là, je dirais qu'on sera plutôt à minima sur cette année 2025, malgré une demande en augmentation, notamment sur des jeunes en difficulté. Il s'agit d'épauler et d'aider, mais les dispositifs sont relativement réduits pour cette année. Ça ne veut pas dire que la commune ne fera rien. Hein. On avait déjà commencé des opérations autour du quartier de chez Fleuras et de sa maison de secteur, maison de quartier. On poursuivra cette année sur le secteur des Hauts-du-Musée, qui avait été un secteur particulièrement agité et remuant pendant les exactions de l'année dernière, pour tenter de faire revenir dans le droit chemin un certain nombre d'individus qui s'étaient un peu écartés du troupeau. Cette séance a permis à chacun de présenter et ses chiffres et ses perspectives, et donc d'entrevoir une année 2025 de façon un peu plus cohérente et un peu plus enthousiasmante. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, je vous l'avouerai, à l'heure où je vous parle.
Antoine Romain, directeur de cabinet du maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo, qui participait évidemment à ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Païta, ainsi que la commissaire déléguée en province sud, le procureur de la République, des représentants de la gendarmerie, de la province sud, du vice-rectorat, de l'enseignement catholique, ainsi évidemment que les services municipaux concernés.
Au chapitre des faits divers, un accident de la route s'est produit sur la RT1 au nord de Bouraille en début d'après-midi. Un camion militaire s'est renversé. Les deux hommes qui se trouvaient à bord ont été blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. L'intervention des secours a perturbé la circulation qui est désormais revenue à la normale. Et puis en bref encore, l'ensemble des indicateurs économiques s'effondrent en 2024. Conséquence évidemment des émeutes et de la crise dans le secteur du nickel. C'est ce qui ressort de la synthèse annuelle de l'IOM publiée ce matin. Malgré un léger rebond au troisième et quatrième trimestre, l'indicateur du climat des affaires est au plus bas encore que lors de la crise sanitaire de 2020. L'emploi local s'est contracté d'environ 20%. L'activité du secteur du BTP s'est effondrée. La consommation des ménages s'est essoufflée et l'activité bancaire a été profondément affectée. La production totale de crédits hors découvert a chuté de 49% en 2024. Et pour 2025, l'ensemble des acteurs interrogés s'accordent sur une absence de perspective. Il est pratiquement 18h sur Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous. On va marquer une pause dans ce journal dans un instant. Nous évoquerons le début des commémorations du 8 mai 1945.
5 francs de remise sur le carburant grâce à votre carte senior et vos points fidélité x3.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 5 francs par litre tous les jours grâce à votre carte senior. Et encore mieux, avec votre carte fidélité Shell et Pacifique, faites x3 sur vos points en plus de la remise. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir avec vous, Lionel Sabot.
Il y a 80 ans, l'Allemagne nazie capitulait face aux Alliés. Le 8 mai 1945 marquait alors la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Demain, les 80 ans de cette date historique seront célébrés. Et aujourd'hui déjà, de nombreuses communes ont organisé des cérémonies de commémoration, Charlotte Coulson.
Ouais, c'était le cas cet après-midi à Dimbéar. Le maire de la ville et son conseil municipal étaient réunis devant le monument aux morts de l'hôtel de ville, accompagné des élue et représentante de l'État. Catherine Merckx, la commissaire déléguée en province sud, était présente pour elle, même à près de 20 000 km de la métropole. Il est important de commémorer cette date du 8 mai 1945.
C'est des souvenirs forts ici aussi. On a des anciens combattants ici aussi. On a pu voir encore à cette cérémonie que les associations d'anciens combattants étaient présentes, les porte-drapeaux sont présents. C'est essentiel de montrer notre respect pour tout ce qu'ils ont fait et de rappeler justement cette histoire et cette mémoire. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui était aussi très beau dans cette cérémonie, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de classes de collège, de lycée, et c'est ce passage de mémoire qui est essentiel dans l'organisation de cérémonies comme celle du 8 mai.
Et effectivement, de nombreux jeunes ont assisté à la cérémonie. Leur présence était importante pour le maire de la commune, Johan Lecourieux, notamment pour transmettre la mémoire.
Là, il y a à peu près 80 élèves de tous les établissements, des 5 collèges ainsi que du lycée, représentés à travers les élèves qui sont membres des classes défense et qui sont très assidus aux cérémonies mémorielles au cours de l'année. C'est très important pour conserver la mémoire du 8 mai 45 et avoir toute cette jeunesse représentée à travers les différentes classes défense des collèges de Dimbéar ainsi que du lycée du Kikewe. Donc c'était très bien de les avoir et c'est porteur d'espoir pour ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs dans le futur.
Et parmi les jeunes qui ont participé à la commémoration, Paul, Antonin et Malek Aleta se sont portés volontaires pour lire des extraits du discours du général de Gaulle, diffusé le 8 mai 1945, ou pour accompagner les personnalités déposant une gerbe au pied du monument aux morts.
Vous venez d'achever comme il fallait la plus cruelle guerre qu'ait jamais menée la France.
Eh bien, c'est déjà une grande fierté de pouvoir rendre hommage à chacun des hommes qui auront non seulement participé à la Seconde Guerre mondiale, mais qui se seront aussi battus pour la France libre.
C'est un moment important de reconnaissance envers les personnes qui sont mortes pour la France, nos ancêtres en quelque sorte. Et c'était pour moi important de participer à ce devoir de mémoire ici.
Je pense que c'est bien d'honorer la mémoire des personnes qui nous ont aidés.
C'était comment alors ?
C'était bien. Un peu stressant au début, mais c'était bien. Ça m'apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et la culture, oui, que je ne savais pas encore.
À noter que le sénateur Georges Naturel a aussi assisté à cette cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Ce matin, une première cérémonie s'est tenue au pied du monument aux morts de Païta. Un premier dépôt de gerbes sur le territoire pour commémorer donc le 8 mai 1945. Il y a 80 ans, les Alliés remportaient la victoire face à l'Allemagne nazie. Cela a marqué la fin des combats en Europe. Après la lecture du message du général de Gaulle, le dépôt de gerbes s'est tenu en présence des autorités civiles et militaires qui ont ensuite respecté une minute de silence. Marilyn D'Arcangelo, maire de Païta.
Toujours beaucoup d'émotions hein, parce que moi je tiens à ces traditions et à commémorer tous ces gens qui se sont battus pour une France libre et nous permettre d'être ce qu'on est aujourd'hui. C'est un message d'espoir, d'une longue vie dans ce beau pays français du Pacifique et tant mieux si la relève est là. Tout à fait, on a deux classes de défense sur la commune qui sont très engagées, très volontaires et c'est bien. Ils sont en marche pour la démocratie comme nous. Je félicite les deux collèges qui s'investissent dans ce type de projet.
Et avant cette cérémonie, le nouveau drapeau des anciens combattants de Païta a été remis à ses membres par le maire de la commune. Il avait brûlé lors de l'incendie du bâtiment de l'Amicale durant les émeutes du mois de mai. Jean-Baptiste Filimoéala, le nouveau porte-drapeau.
Le nouveau drapeau est très important. Il est de coutume de bénir le drapeau afin de continuer le devoir de l'histoire avant d'être le devoir de mémoire. Ce drapeau, on l'a mis en béli et ce drapeau continuera d'arborer, bien sûr, ses nouvelles couleurs et ses dorures. J'ai eu mon insigne de porte-drapeau en 20 ans, j'ai vraiment gâté. Donc pour moi, c'est un honneur et une joie, une fierté en mémoire des anciens qui sont partis, aux soldats morts pour la France, aux blessés, aux malades et bien sûr aux familles.
Des propos recueillis par Nicolas Legrand, la commissaire déléguée à la province sud, Catherine Merckx, a également participé à la cérémonie, tout comme Muriel Malfar-Paoga qui représentait la province sud. Des commémorations qui vont se poursuivre demain à Nouméa. Un dépôt de gerbes aura lieu à 8h30 à la Croix de Lorraine, au Mont Coffin. Au Mont d'Or, c'est à 7h30, place des Accords, qu'aura lieu une cérémonie de dépôt de gerbes. Notez également, toujours au Mont d'Or, qu'une cérémonie de remise de fourragères et de présentation au drapeau des volontaires découvertes de l'armée de terre se déroulera à Ploum à 10h50 sur la place d'armes du quartier Broche du RIMAPNC. Une cérémonie qui sera présidée par le chef de corps du RIMAPNC, le colonel Loïc Belbéoc. En brousse, un dépôt de gerbes aura lieu à 11h à Bouloupari, au monument aux morts, tout près de la mairie. À moins d'où, la cérémonie aura lieu à 8h. Dans le nord, les cérémonies de dépôt de gerbes auront lieu à Conné et Coumac en présence des jeunes du RSMA et du commissaire délégué à la province nord. La cérémonie de Conné aura lieu à 8h, celle de Coumac à 10h. Enfin, aux îles, une cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu demain à 8h à Lifou, devant la mairie de Houé. C'est donc un nouveau long week-end qui débute pour certains d'entre vous. Demain, 8 mai, est en effet un jour férié. Les administrations, les banques, mais aussi les écoles, collèges et lycées seront fermés. Certains magasins seront également fermés ou appliqueront leurs horaires du dimanche. Radio Rythme Bleu se mettra aussi aux horaires des week-ends pour ce jour férié. Ainsi, vous ne retrouverez votre grand journal du matin avec Nicolas Legrand qu'à 7h au lieu de 6h30. Notez qu'il n'y aura pas d'invité du matin, ni votre rubrique « Vous avez un avis ». Infomag vous sera présenté par Jean-François Bodin à midi au lieu de 11h30. Vous ne retrouverez pas les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Pas de changement en revanche pour notre journal du soir qui vous sera présenté à 17h45. Un long week-end de 4 jours qui s'ouvre donc pour certains, qui en profiteront sans doute pour aller visiter, pourquoi pas, la Brousse. Une occasion à ne pas manquer pour les professionnels du tourisme en grande difficulté. La ville de Coumac souhaite justement mettre en avant les atouts de la région en organisant la fête de l'écotourisme. Dès demain et pendant 4 jours, elle propose de nombreuses activités, des balades à cheval, de la plongée sous-marine, de l'escalade en pleine nature et tant d'autres. Le temps fort ce week-end sera bien sûr ce samedi, la fête de la génisse à la broche qui se déroulera sur le champ de foire. La bête de plus de 300 kilos commencera à cuire dès vendredi soir. Les membres du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, étaient réunis ce matin à la mairie de Nouméa pour une séance plénière. À l'ordre du jour, l'examen sur saisine du président du gouvernement d'un projet d'avis concernant une délibération relative aux manifestations sportives. Christian Roche est le président de la commission de la culture, de la jeunesse et des sports au CESE.
En fait, il s'agissait de faire un toilettage de la délibération 118 CP là, de 2018 afin de simplifier les démarches administratives pour les organisateurs sportifs d'épreuves de pleine nature hein, ou autres. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de contraintes administratives, si vous voulez, et ça décourageait certains organisateurs d'épreuves. Ce projet de délibération, il vise à intégrer le rodéo, qui était jusqu'alors considéré comme une pratique culturelle. Or, il est dorénavant reconnu comme une composante sportive indéniable. Ça permettra également à la DGS, hein, au niveau de la police administrative, de faire plus de contrôle, si vous voulez, sur l'organisation des manifestations.
Et à l'issue des débats, le CESE a rendu un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. Cette opération de transfert embryonnaire et d'insémination artificielle ovine à la station zootechnique de Port-la-Guerre. Une opération inédite qui est encadrée par un embryologiste venu spécialement d'Angleterre. Une mission menée en plusieurs phases pour profiter des compétences de cet embryologiste britannique, nous a expliqué Charline Galliana, responsable de la station zootechnique de Port-la-Guerre.
La journée d'hier a été dédiée à la formation des vétérinaires, donc on a formé 7 vétérinaires sur tout ce qui est reproduction chez les ovins, insémination artificielle, prélèvement et analyse de sang, enfin, des choses assez techniques. Les vétérinaires étaient vraiment ravis, il y a eu beaucoup d'échanges. Tout au long de la semaine, nous, on collecte tous nos béliers pour garder de la semence, ce bélier, pour pouvoir un jour les réimplanter dans nos brebis. Donc ça, c'est du côté un petit peu, on va dire, patrimonial de la mission, c'est qu'on essaye de travailler sur la technique, de conserver nos semences. Et puis, on a ouvert aussi aux éleveurs privés qui viennent avec leurs femelles et qui vont implanter la semence d'amarin.
Et les opérations sont conduites avec la collaboration de l'UPRA Calédonie Sélection et de l'UPRA Ovine Caprine, avec un objectif clair, renouveler la génétique du cheptel calédonien. Jonathan Bouffard est responsable du pôle élevage.
Le souci de la Calédonie, comme toujours, c'est qu'on est une île. Et donc, en termes d'amélioration génétique,
On a vite fait le tour de l'île. C'est pour cela que tous les 2 ou 3 ans, nous faisons intervenir un embryologiste qui vient ici pour, avec des semences australiennes, anglaises, américaines. On travaille avec des semences de l'extérieur pour pouvoir justement profiter de la génétique des autres pays.
Oui, j'ajoute que pour les ovins, ces missions sont effectuées tous les 2 ans environ. Il est 18h10, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous à suivre l'actualité dans la région Pacifique, un peu de sport mais aussi la météo.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information.
La suite du journal avec vous, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région, le FMI, le Fonds monétaire international, vient d'annoncer la prévision d'un très net ralentissement de la croissance économique dans le Pacifique pour les 2 années qui viennent. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le FMI a estimé que ce ralentissement est dû en partie aux actuelles tensions qui perturbent les échanges commerciaux à l'échelle mondiale. L'une des conséquences de ces agitations va être la décroissance de la production économique régionale qui va chuter de 3,6% en 2024 à 3,1% cette année et à 2,7% en 2026. Le déclin est plus important que prévu, a indiqué un responsable régional du FMI. Et de citer en exemple le Samoa, dont la croissance économique va quasiment s'arrêter, vu que de 9,4% l'an dernier, elle va chuter à 5,4% cette année et plafonner à 2,6% l'an prochain. Les îles Fidji ne sont guère mieux loties. Leur croissance, qui était de 3,7% en 2024, n'atteindra en effet que les 2,6% en 2025. En raison des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, le paysage économique régional est soumis à une grande incertitude, a constaté le FMI. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, du sport avec du tennis en République tchèque. Maxime Chazal enchaîne sur le Challenger de Prague. Passé par les qualifications, le Calédonien s'est imposé la nuit dernière au premier tour du tableau principal. 358e à l'ATP, il a battu le 220e mondial. Ce soir, au deuxième tour, Maxime Chazal affrontera Petr Bjørklík, 566e à l'ATP, qui a battu la tête de série numéro 1 au premier tour. Et puis un mot d'athlétisme sur le territoire, cette fois-ci avec la troisième et dernière manche aujourd'hui des différentes coupes organisées par le CTE de Nouvelle-Calédonie. 3 challenges sont proposés depuis le 23 avril à l'ensemble des athlètes du territoire. La coupe sprint avec du 100, 200 et 400 mètres. La coupe haie avec notamment du 110 et du 400 mètres haie, évidemment. Et puis la coupe demi-fond avec du 800, du 1000 et du 1500 mètres. Après 2 manches à Boulari et à Lifou, la 3e et dernière manche se déroule en ce moment même au stade Numadelet. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Oui, alors tout d'abord, vigilance jaune pour fortes pluies et orages pour cette nuit sur l'île des Pins pour un risque d'averse forte ou orageuse. Cette nuit, le ciel deviendra généralement couvert avec des pluies souvent faibles et intermittentes, mais le temps sera encore sec sur le sud-ouest en soirée. Les pluies pourront être soutenues, voire orageuses, en début de nuit sur les pointes nord et le nord-est, ainsi que sur la fin de nuit sur l'île des Pins. Le vent s'orientera est à nord-est et moulira entre 5 et 10 nœuds. Il soufflera encore d'abord à 15 nœuds aux loyautés sur les pointes nord et sud. De bonnes rafales seront possibles sous les averses. Les températures minimales varieront entre 21 et 25 degrés. Demain matin, au début, le ciel sera encore souvent couvert avec des pluies faibles, surtout sur l'est et les loyautés, mais une amélioration se dessinera en cours de matinée. Le temps deviendra plus sec avec des éclaircies qui s'inviteront sur l'ouest et le nord. Le vent d'est à nord-est s'établira entre 5 et 10 nœuds, atteignant plus de 15 nœuds aux extrêmes nord, sud et aux loyautés.